Le oui a besoin du débat pour gagner.
Mais le seul truc qui t'intéresse, c'est toi, toi et toi, tes études, ta carrière, ton poste au ministère, la con.
Nous sommes une démocratie, c'est le peuple qui l'a décidé.
C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux qu'il ferme ta gueule, hein.
Be you, be proud of you, because you can be.
Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris.
Do what we want.
Garantie sans candidat, mais avec des invités qui ont des idées.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent. Allez, donnez les temps.
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
Mes chers collègues, la séance commence pour ce premier numéro de Place Publique. Nous parlerons de numérique parce que, dit-on, c'est l'avenir et qu'après la révolution digitale, plus rien ne sera jamais pareil. De la voiture sans conducteur aux services comme Hitch ou Uber, des livreurs à vélo aux sites de coworking, sans oublier les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, que les initiés n'appellent plus que par leurs initiales. Le numérique est partout, le numérique concerne tout le monde. Mais est-il un enjeu de la prochaine présidentielle? Le devrait-il? Et s'il est partout, le numérique a-t-il déjà aussi changé la politique, voire notre vie démocratique? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, Place Publique vous propose une heure durant chronique, reportage, mais aussi un débat. Et vu les questions que nous allons traiter, il nous fallait bien trois invités.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien.
Place Publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Autour de cette table, bonsoir à vous trois. Animata Dembélé. Vous êtes, j'ai mal dit, voilà, c'est
Aminata Dembélé.
Aminata Dembélé, vous êtes chargée de campagne chez Change.org, la plateforme de pétition en ligne qui influence de plus en plus le débat public. À vos côtés, Pierre-Luc Fayolle, il est chargé de projet, attention là je dois parler en anglais, c'est pas mieux, Empowerment numérique dans l'association ICI, qui veut dire innovons pour la citoyenneté sur Internet, et vous voulez démocratiser l'accès au numérique.
Tout à fait.
Et enfin, Irénée Regnault, vous êtes consultant et blogueur. Le nom de votre blog est maisouvaleweb.fr. Il se présente comme un lieu où se pense le web. Je précise qu'on pense avec un A. Le web doit donc être blessé. Merci à vous trois d'être venus à mes côtés pour réagir, questionner, animer deux voix que les auditeurs de Radio Campus connaissent et vénèrent. Alban et Béatrix, bonsoir Alban.
Bonsoir Christophe. J'aime beaucoup cette idée que nous sommes vénérés sur... Alors là, ouais. Il y a une virgule qui n'est pas partie, tout va bien, cette émission commence parfaitement bien, exactement. Oui, on sort d'une émission satirique, alors, on rentre dans quelque chose de plus sérieux.
Allez, on rentre dans quelque chose de plus sérieux et de peut-être un peu plus polémique. J'avais envie de vous demander pour commencer, puisqu'on fait l'émission politique et qu'on parle de numérique, y a-t-il un Internet de droite, y a-t-il un Internet de gauche, voire un Internet du centre?
Commençons directement par le débat partisan. Qui veut prendre la parole?
Allez-y.
Tout le monde se regarde.
Aminata.
Du moins, sur Change.org, il n'y a pas d'Internet de gauche ou de droite. C'est une plateforme neutre qui accepte toutes les opinions, qu'elles soient de gauche, de droite ou de centre. On permet à nos utilisateurs de lancer des campagnes sur leur sujet de leur choix et de rentrer en contact avec des décideurs politiques pour faire aboutir leur campagne. Donc, il n'y a pas du tout d'opinion plus mise en avant qu'une autre sur notre plateforme. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'Internet de gauche ou de droite.
Irénée.
Ouais, la question, c'est déjà de savoir que derrière Internet, il y a des gens. Hein, donc, Internet de gauche, de droite, il faut savoir les gens qu'il y a derrière. Après, aux origines du web, il y a quand même un projet qui est libre, qui émane d'universités, de gens qui sont un petit peu des bikniks. Et aujourd'hui, le web prend des directions. Nécessairement, quoi qu'on en dise, il n'est pas neutre. Il y a des gens qui gouvernent Internet, il y a une géopolitique de l'Internet. Alors de gauche, de droite, je ne sais pas si c'est vraiment la question. La question, c'est quelle est la place du citoyen, quelle est la place de l'internaute dans Internet. Voilà. Vous parliez des GAFA, je pense qu'on va en parler pendant toute la séance. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'aujourd'hui, on est dans un Internet qui tourne un petit peu à droite quand même.
Première tendance.
Je suis d'accord avec Irénée. Je trouve que Internet est éminemment politique. C'est vraiment quelque chose qui a des enjeux derrière. Il faut pas les négliger. Justement, enfin, moi c'est un peu l'objet de mon travail, c'est d'essayer de déconstruire ces enjeux qu'on ne connaît pas forcément et qui ont besoin d'être connus et mieux connus. Mm-hmm.
Alors, on s'apprête à faire une émission sur le numérique et sur Internet. Moi, la question que je me posais en préparant l'émission, je me demandais si en fait Internet est encore ce synonyme de progrès, de liberté. Hein. En 2011, on se souvient du printemps arabe, de l'enthousiasme qu'il y avait. C'était un peu la révolution Twitter, comme on l'a aussi appelé. Est-ce que ça, c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce qu'Internet est encore vu comme quelque chose de voilà, pouvant amener le progrès? Amita Dembélé, je me tourne peut-être vers vous.
Je pense qu'aujourd'hui, Internet, et notamment grâce à un outil comme Change.org, permet à des citoyens de pouvoir mener des campagnes sur les sujets de leur choix. Et ça rend, c'est aussi un outil d'accessibilité. Donc aujourd'hui, on observe qu'il y a de plus en plus de formes d'expression en ligne. Les gens veulent vraiment peser sur les décisions qui leur concernent. Mmh. Et Internet,
Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on n'exagère pas, en fait, le pouvoir de transformation du numérique et d'Internet?
Je pense pas. Je pense que vraiment, on peut créer un dialogue entre des citoyens engagés et des politiques. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, les politiques cherchent à avoir l'opinion des citoyens sur Internet. Avec Change.org, ils peuvent aussi répondre à des pétitions qui leur sont adressées, ils peuvent lancer des consultations citoyennes et ils peuvent à leur tour lancer aussi des pétitions. Donc on voit vraiment qu'il y a un dialogue, une conversation qui se crée entre des politiques et des citoyens en utilisant un outil d'engagement.
Après,
Irénée,
tout est un peu une question de symétrie, j'ai envie de dire. Certes, vous avez les révolutions arabes, vous avez des mouvements sociaux, vous avez les indignés, Nuit Debout, qui se fixent architecturalement sur Internet, qui fait écho à leur combat, à leurs revendications. Il y a aussi des choses comme Change.org, comme des concurrents à vous, comme Avaz, qu'on connaît tous. Après, comme je le disais, c'est une question de symétrie. Ces sites-là, ces gens-là passent aussi par des plateformes comme Google, comme Amazon, comme Facebook, etc., qui elles-mêmes prennent de la place dans le débat, qui ont une façon de présenter les informations, qui ont des algorithmes derrière qui catégorisent l'information, la façon dont on la voit. Tout ça, ça rend quand même le web assez asymétrique aujourd'hui. Et la question, c'est que oui, le citoyen peut prendre en main ces outils. Après, il les subit beaucoup quand même. Il les subit au quotidien, il les subit parce que ce sont aussi des monopoles. Donc, est-ce qu'on peut encore faire des choses? Oui. La question, c'est pas si on peut en faire ou pas. La question, c'est dans quelle mesure et à quelle échelle.
Pierre-Luc Fayolle, est-ce qu'une des principales asymétries n'est pas entre ceux qui savent coder, les autres? Une grande question aujourd'hui, on veut généraliser l'apprentissage du code. Est-ce que vous, dans votre association, vous avez un avis sur la question?
Alors, nous, on estime que c'est une très bonne chose. Pour reprendre les propos d'Aminata, on pense que le web, c'est un outil essentiel aujourd'hui pour l'expression, pour s'intégrer dans la société. Enfin, il y a vraiment ce côté-là du web, du numérique qui est essentiel à retenir. Mais toujours est-il que nous, on trouve qu'il y a quand même une fracture sociale qui se reproduit dans le numérique. On parle de fracture numérique. C'est vraiment quelque chose qui existe et c'est pas anodin. Et ça concerne principalement les usages. L'initiative que prend notamment le gouvernement et pas mal d'acteurs publics aujourd'hui de faire de la formation à destination de jeunes pour devenir codeurs, développeurs,
on va en parler,
c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et voilà.
On va faire mieux qu'en parler, on va accompagner Guillaume qui est allé à l'école 42 et nous allons écouter le témoignage de Lounis, un étudiant de cette école.
Alors toi, en tant qu'étudiant de l'école 42, est-ce que tu attends quelque chose des élections présidentielles de 2017 en France ?
Pas vraiment, j'attends juste quelqu'un qui va éviter le pire et rectifier le tir en général. Mais surtout qu'on ne touche pas à nos libertés fondamentales et qu'on ne touche pas à nos vecteurs d'expression.
C'est-à-dire liberté fondamentale, par exemple les libertés numériques ?
Ouais, ça a été reconnu comme droit international. Je connais plus la dénomination exacte, mais en gros, on n'a plus le droit d'enlever à quelqu'un sa connexion Internet. C'est d'ailleurs ce qui fait scandale avec Julian Assange en ce moment. Et j'ai peur que le monde se dirige un peu trop dans cette direction, vu le dernier veto exécutif d'Obama. Est-ce que Hillary Clinton veut poursuivre dans ce sens-là, qui permettrait plus ou moins aux Nations Unies de faire des filtres sur Internet pour empêcher qu'il y ait trop de mensonges et de désinformations sur Internet, sachant que les dits mensonges et désinformations sont définis par les Nations Unies elles-mêmes.
Donc par les États qui dominent aux Nations Unies, comme les États-Unis ou la France. Mais alors qu'est-ce que les élections présidentielles pourraient changer là-dedans ?
Les élections présidentielles, tout d'abord, je pense que les élections les plus importantes sont plus les municipales et les législatives. C'est celles qui nous concernent au jour le jour et qui concernent notre vie. les élections présidentielles nous permettent juste d'avoir une voix au niveau international et au niveau des affaires étrangères. Le fait qu'un pays aussi historique que la France, quand il s'agit de révolution et des libertés civiles, s'oppose à un projet tel que celui-ci, sera un grand pas en avant.
Et tu penses qu'il y a des personnes qui sont capables de porter ça, ou au contraire qui sont une menace pour ces libertés numériques, qui se présentent, qui vont peut-être potentiellement se présenter en 2017 en France, je sais pas.
Oui. En 2017, je pense vraiment que tous les politiciens vraiment sortis de l'établissement, tous les politiciens dont le métier est le métier de politicien, ne s'y opposeront pas. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques et qu'il n'y a pas assez de buzz autour de cette affaire. Donc, ils vont juste faire en sorte d'être réélus ou que leurs confrères du même parti soient réélus.
Est-ce que tu trouves qu'on parle assez des enjeux numériques alors dans les débats politiques qu'on peut entendre dans les médias dominants, à la télé, dans les radios les plus écoutées, dans les journaux comme Le Monde ?
Largement pas assez. Et Malcolm X disait que si on ne fait pas assez attention, les médias nous font adorer ceux qui essayent de nous étouffer, nous font détester ceux qui essayent de nous sauver. Et c'est exactement ce qui se passe quand les derniers vecteurs de médias pas corrompus, sans conflit d'intérêts ni quoi que ce soit dans le genre, sont soit accusés de pédophilie, soit emprisonnés, soit tout simplement assassinés dans certains pays.
Ça fait réagir autour de la table, hein, cet extrait et cette interview. Je ne sais pas qui voulait réagir en premier.
Irénée,
peut-être.
De mon côté, je pense que vous avez pris un bon dissident de l'école 42, quand même. Je souhaiterais qu'ils soient tous aussi informés que ça, ce n'est pas forcément sûr. Alors après, attention, hein, les étudiants de 42 sont des gens qui, en effet, font du développement informatique. Le numérique, ce n'est pas que du développement informatique. Derrière le numérique, il y a aussi éventuellement des sciences humaines. Et d'ailleurs, à l'école 42, on n'en trouve pas forcément beaucoup. Alors, c'est très bien que vous ayez trouvé cette personne-là au demeurant. Et pas grand chose, hein, je suis pas assez d'accord avec lui dans l'ensemble.
C'est vrai. Pas grand chose à rajouter.
Alors, Pierre-Luc Fayol, justement, on a parfois, vous venez de parler d'exclusion numérique tout à l'heure, on a parfois l'impression que tout le monde est connecté, mais c'est loin d'être le cas. On parle même d'électronisme, c'est le terme que j'ai trouvé. On estime que cet électronisme, il toucherait 15% de la population. Donc, ça veut dire près de 10 millions de Français qui n'ont pas vraiment accès au numérique, enfin, en tout cas, qui ne savent pas vraiment l'utiliser. Vous, concrètement, avec votre association, c'est ce que vous faites, de la formation ?
Voilà, et c'est ça exactement. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre terme électronisme, parce que en fait, les usages sont vraiment, vraiment complexes, vraiment différents. On travaille, nous, notamment avec des jeunes, sur les questions de l'accès à l'emploi, pour essayer de mettre un peu à plat ce qu'ils font avec leur smartphone, et essayer de voir comment ça peut les accompagner dans leur recherche d'emploi, ce genre de choses. On bosse beaucoup avec des associations pour essayer de valoriser leurs actions via des outils numériques, via des sites web, ce genre de choses.
Mmh. Quel public est-ce que vous touchez exactement avec votre association, avec ces formations ?
Donc, on travaille principalement avec les habitants des quartiers populaires, les personnes dans la grande exclusion, notamment des SDF, avec des associations, je disais, et aussi beaucoup avec des acteurs de l'éducation populaire. On forme beaucoup, enfin, on essaye de former de plus en plus des acteurs qui travaillent avec des jeunes ou des...
Vous formez plutôt ceux qui, après ça, vont former des...
Voilà,
des gens,
on essaye de tourner cette action de plus en plus pour être des passeurs et faire en sorte qu'il y ait encore plus de passeurs de cette culture numérique et créer une culture numérique qui soit un peu critique vis-à-vis des outils et qui soit en mesure de mieux les appréhender, de mieux s'en saisir.
Et ça, vous pensez que ça devrait aller plus loin, hein ? Par exemple, il y a eu un grand plan pour le numérique à l'école qui a été lancé, c'était en 2014 par François Hollande. Depuis, concrètement, est-ce que ça a vraiment donné est-ce qu'on a fait un bond en avant ? Ou est-ce que, en fait, pas grand-chose n'a
Alors...
changé ?
Je suis pas un expert du tout de cette question à l'école, mais moi ce que je dirais c'était que ce plan concernait pas mal l'équipement, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si la question des usages est encore énormément traitée.
C'était le haut débit notamment, hein, équiper toutes les écoles en haut débit, donner les tablettes aux élèves.
Justement toute cette question de réfléchir aux usages et réfléchir à qu'est-ce qu'on met derrière ces équipements, je sais pas si cette réflexion a encore eu lieu et ce serait bien de l'avoir, enfin ce serait plutôt même une très bonne chose de réfléchir avec les enseignants, avec, avec l'éducation nationale de manière générale.
Mmh. Aminata Mbele, vous êtes d'accord avec ça? C'est plus sur apprendre à utiliser les outils plutôt que les outils eux-mêmes qui comptent?
Oui, je suis d'accord avec ça. Et là-dessus, je voulais ajouter que notre mission chez Chain, c'est vraiment de donner la voix à des personnes qui ne se sentaient pas forcément légitimes pour mener des campagnes. Et à ce titre, on a mis en ligne un guide de lobbying citoyen qui recense toutes les bonnes tactiques pour lancer une bonne pétition en ligne, avec des exemples de campagnes à succès, comment interpeller les médias, comment faire porter sa pétition auprès des décideurs. Et après, au niveau local, on a décidé d'aller un peu plus loin. On a lancé à Marseille un projet expérimental qui s'appelle Changer Marseille, qui a pour but de créer une communauté d'utilisateurs engagés à Marseille. Mmh. Donc, on a 3 ambassadeurs qui ont déjà lancé des pétitions à succès sur Change, mmh. qui accompagnent des utilisateurs de Change.org à Marseille à travers des ateliers de mobilisation pratiques où ils leur donnent vraiment les clés d'une bonne pétition en ligne. Comment créer un changement dans leur ville. Et
donc vous allez concrètement trouver les gens sur le terrain, quoi. C'est ça que vous nous dites?
Concrètement, on a des utilisateurs de Change.org qui n'ont pas forcément toutes les clés pour faire porter leur campagne à plus grande échelle. Et on a des personnes à Marseille qui sont déjà sensibles aux tactiques de mobilisation, qui sont là pour les aider, les accompagner, pour faire porter leur campagne et la faire entendre auprès du plus grand nombre. Donc voilà, on est vraiment passé du online au offline en fait. Et l'idée, c'est vraiment de créer des rencontres régulières entre des Marseillais, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une ville où il y avait un réseau associatif assez fort, mmh. et aussi beaucoup de citoyens engagés, mais il n'y avait pas de lieu de convergence. Et,
donc pas que par l'école non plus, hein, je vous entends.
Voilà. Ce matin, Axelle Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, est allée à Aubervilliers pour inaugurer une expérimentation sur l'aide au maintien de la connexion Internet pour les familles les plus démunies. Est-ce que les uns les autres, vous pensez qu'aujourd'hui, garder la connexion à Internet, c'est quasiment un besoin vital ?
Nous, clairement, c'est en travaillant avec des acteurs sociaux qui font de l'insertion, des assistants sociaux, des assistantes sociales, c'est ce qu'on constate.
Il se passe quoi quand on n'a plus Internet, concrètement ?
Il se passe que
on panique
déjà, on va voir des personnes référentes pour qu'elles fassent à notre place. Et ça, le gros problème, c'est qu'on transfère ce genre de choses. Et c'est quand même assez critique de se dire que c'est quelqu'un qui va faire à sa place des démarches administratif de base ou qui va se substituer. C'est un gros problème, je pense, aujourd'hui.
Mais quand on est illettré, on ne peut pas se servir d'Internet. Donc il n'y a pas d'abord apprendre à lire et écrire à tout le monde.
Il y a clairement ça. Moi, c'est sûr que là, on parle de personnes qui ne sont pas illettrées et qui peuvent...
Mmh. Irène Regnault, vous voulez réagir?
C'est bien la question sur le numérique, hein, c'est que ce ne sont pas que des outils, derrière il y a des gens, encore une fois. Alors oui, quand on coupe Internet, concrètement, c'est un petit peu comme si on coupait l'eau ou l'électricité. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans, on ne peut pas faire ces démarches administratives, ça ne marche pas. Après, faut voir aussi la place des opérateurs là-dedans, ce qu'ils font en termes de péréquation et de réseau dans les territoires. Voilà, la politique, elle est là aussi, elle est donnée à la personne qui habite dans le fin fond de la Creuse une connexion Internet qui marche aussi bien que quelqu'un qui habite dans un centre-ville. En effet, il faut commencer par là. L'éducation, c'est un autre sujet aussi. Why don't you come, little closer? The crack of dawn, little closer. Crack of dawn, closer. Coca-Cola. Maybe you're the reason my mind is tripping. Maybe you're the reason my heart is diving. Maybe you're the reason my head is spinning. Maybe you're the reason. Maybe you understand why I need you now. I need you now. Your body close to mine, like the crack of a
crack of dawn. Closer, come on, little closer. Why don't you come, little closer, at the crack of dawn.
C'était Nao de Songe.
Win the yes, need the no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Again the no.
Avec Alban.
Et on parle toujours du numérique, des enjeux numériques pour la présidentielle. Alors durant la pause, il a pas mal été question notamment d'école. Et c'est vrai que la France reste un petit peu à la traîne hein, dans les classements européens sur les usages numériques à l'école. On compte en moyenne un ordinateur pour 9 élèves. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Comment on fait rentrer un peu le numérique, les enjeux du numérique dans l'école? Qu'est-ce qui coince, d'après vous?
Déjà, on forme les profs, on les aide.
Premièrement, première chose.
Parce que ce sont eux qui enseignent aux étudiants. On ne tombe pas dans des postures un petit peu solutionnistes qui consistent à penser qu'on va tout résoudre en mettant des appareils dans les mains des enfants. Ce n'est pas le cas. Le numérique, c'est quelque chose qui s'approprie, qui se construit. Il y a le code qui est important. Hop là, pardon.
Ouais, on a juste le micro pour qu'on vous entende.
C'est comme un numérique, c'est des outils, c'est des postures.
Faut apprendre à les utiliser.
Donc on donne pas juste des tablettes aux enfants en disant voilà, on vous équipe.
On peut essayer, on peut tester, voir comment ça se passe. Après, moi je regarde les classements PISA qui existent depuis plusieurs années, qui comparent l'utilité d'avoir des appareils à l'école, des tablettes, et on s'aperçoit, c'est pas un scoop que les meilleurs ingénieurs sont formés dans les écoles où on fait d'abord des maths, pas dans les écoles où on a des tablettes dans la main et qui servent pas forcément à grand chose. C'est aussi des contrats avec des industriels, c'est aussi à un an de la COP21, beaucoup d'appareils qui polluent énormément. Posons-nous la question d'abord de former des gens qui ont des têtes pleines et pas des gens qui seront des futurs consommateurs.
Mmh. Pierre-Luc Fayol, des professeurs, vous en voyez parfois dans vos formations?
Alors, on n'en voit pas dans nos formations, mais on a travaillé pour un conseil départemental sur la question du numérique au collège. Ça nous avait permis de faire une assez grande enquête sur quel constat on faisait du numérique au collège, sur l'équipement, mais aussi sur les usages. Enfin, on avait essayé d'insister un peu là-dessus. Et c'est exactement ce que dit Irénée, c'est vraiment une question de différents points de vue avec beaucoup de personnes qui sont preneurs mais qui demandent à travailler sur différents usages et à travailler cette appropriation du numérique en amont. Et,
Donc, et les gens sont demandeurs, quoi.
Il y a des professeurs demandeurs. Les professeurs, c'est un corps très.
Oui, on peut pas parler du professeur.
C'est un peu compliqué. Type. Et il y a des professeurs qui estiment que d'abord on doit travailler sur apprendre le français en amont, et après on verra ces questions de numérique plus tard.
Alors une fois que les gens sont formés, on en arrive au thème de la participation, du participatif. Hein. On en parle souvent du participatif sur Internet. Le gouvernement français organise lui-même souvent des consultations. Alors, par exemple, hein, sur faut-il laisser les loups en liberté dans les Pyrénées, c'est l'objet de consultations. Et pour vous, c'est quelque chose à encourager, c'est utile, ces participations sur Internet, cet appel aux citoyens. Et je me tourne peut-être vers vous, Aminata Dembélé.
Oui, c'est utile et ça peut vraiment faire participer les citoyens à la vie démocratique. J'ai un exemple très parlant. Actuellement, la ville de Mexico est en train de construire sa nouvelle constitution. Et ils ont lancé une consultation en ligne sur Change.org. Ils ont utilisé un outil qui s'appelle une page mouvement qui permet de recenser plein de pétitions. Et l'idée, c'est qu'à partir de 10 000 signatures, ils accueillent dans leurs locaux le porteur de projet pour qu'il puisse pitcher sa proposition auprès du comité en charge de rédiger cette nouvelle constitution. Donc là, on voit vraiment comment, à l'international, des personnes, enfin des décideurs politiques utilisent les outils numériques pour vraiment inclure les citoyens dans leurs décisions et participer justement à ce collaborateur.
Cela dit, Aminata Dembélé, je vous entends bien, mais est-ce que cette participation sur Internet, c'est pas un petit peu souvent utilisé par la politique pour légitimer justement son action? En gros, on dit, bah voilà, on vous écoute, mais en fait, au final, on s'assied complètement sur la vie, sur les consultations.
Je ne pense pas que c'est juste des initiatives comme ça qui ne vont pas être concrètes après, parce que nous, on a quand même eu des exemples à succès qui montrent que les politiques, en s'engageant sur Internet, permettaient vraiment d'avoir des engagements concrets. On a de nombreux décideurs politiques qui ont créé un profil vérifié sur change.org qui leur permet de répondre à des pétitions. Et notamment, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a répondu à une dizaine de pétitions récemment. Martin Hirsch a aussi répondu à une pétition en vraiment apportant une solution concrète sur la redistribution de repas pour les réfugiés à Paris.
Là, on a des politiques qui maîtrisent Internet. Là, c'est le quart d'heure de mauvais esprit, enfin un peu moins qu'un quart d'heure. C'est la minute de mauvais esprit. Nous allons retrouver la rubrique « La question qui tue ». Et Béatrix est allée interviewer Nadia Robinet, vice-présidente du G9+, avec cette question qui fera fureur à Halloween. Mais pourquoi le numérique fait-il peur aux hommes politiques français ?
Je pense qu'effectivement, les politiques ont peur du numérique parce que aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension du numérique. On considère le numérique comme une menace et le terme ubérisation, dont nous sommes très friands en France, est assez emblématique de cela. Le terme ubérisation, c'est en général pour exprimer toutes les inquiétudes légitimes qu'il peut y avoir face à la disparition d'un certain nombre de domaines réservés et d'autres acteurs qui viennent concurrencer donc ces domaines réservés. Mais en fait, le numérique transforme, crée des nouvelles frontières au travail avec une réduction du salariat, avec la remise en cause des grandes structures. Donc ça remet effectivement en cause les organisations traditionnelles.
D'accord. Et est-ce que
Oui, je vous en prie.
Excusez-moi. Et justement, est-ce que vous pensez, vis-à-vis de l'emploi, que ça va tendre à en créer de nouveaux ? Parce que justement, le terme d'ubérisation, c'est souvent pour dénoncer la suppression de certains emplois. Mais est-ce qu'à votre avis, ça va être compensé par la création de nouveaux ?
Cela dépend des actions qui seront entreprises par les acteurs publics et privés et par les politiques en la matière. En fait, si on regarde par exemple les bénéfices de croissance générés par l'industrie du numérique, aux États-Unis, en Chine ou au Japon, les résultats sont tout à fait positifs. Si on regarde les 10 premières capitalisations des géants de l'Internet, on va trouver 6 entreprises américaines et 4 entreprises chinoises. Donc il y a eu un investissement et des décisions d'organisation, notamment par la mise en place de responsables, de chief technical officer, de responsables du numérique au plus haut niveau de l'État, pour pouvoir appréhender dans sa globalité ce sujet et prendre les mesures nécessaires. Or aujourd'hui, force est de constater que ce soit à l'échelon française ou européenne, nous n'avons pas encore compris la mesure de cette transformation numérique et mis en place l'organisation adéquate.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui expriment justement leur crainte vis-à-vis du numérique, qui ont peur de perdre leur emploi, d'être remplacées finalement par des programmes informatiques ou alors par des employés délocalisés, etc. À votre avis, quelle réponse on pourrait leur donner ?
Le numérique crée les nouvelles frontières pour le travail, remet en cause les grandes structures. Il y a des nouvelles organisations qui capitalisent sur la puissance numérique qui se mettent en place. Et ces changements ont besoin d'être accompagnés au niveau du droit du travail, au niveau des relations sociales. Donc c'est en embrassant ces changements, en identifiant les opportunités pour capitaliser sur nos forces, et nous avons un certain nombre d'atouts en France, notamment nos ingénieurs, notre formation en matière de numérique, qui nous met dans une bonne position pour pouvoir saisir les opportunités du numérique. Mais aujourd'hui, nous arc-boutons sur un certain nombre de paradigmes anciens qui freinent cette évolution.
C'était Nadia Robinet, vice-présidente du G9+, signalons la sortie d'un livre aux éditions Diaténo, « 100 idées pour une France numérique ».
Alors, Irénée... Ça fait réagir, entre la...
Ouais, ça fait réagir, Irénée.
Ah oui, alors le G9+, c'est un groupe qui accompagne beaucoup les sujets numériques, qui fait des recommandations presque chaque année à différents gouvernants. Bon, c'est intéressant ce qui est dit ici. Après, on entend parler de transformation numérique, on nous dit qu'il faut accompagner les changements. Soyons clairs, hein. Oui, il y a des emplois qui vont être détruits, et oui, il y a des modèles alternatifs qui sont, alors ici, cités la Chine, les États-Unis. Si on veut reconstruire beaucoup d'emplois facilement, voilà, mettons concrètement les mots sur ce qui vient d'être dit, c'est adapter le droit du travail, c'est-à-dire en partie le casser, et rentrer dans ce capitalisme de plateforme qui commence à exister, c'est-à-dire où les gens peuvent travailler facilement d'une tâche à l'autre. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais soyons vigilants quand même. Le numérique, c'est pas juste quelque chose qui permet de repenser les business models et de faire la même chose en pire. C'est aussi une manière d'améliorer la vie des gens. Voilà.
Pierre-Luc Fayolle, c'est quelque chose que vous voyez, vous ?
Enfin, non, moi, c'est pas quelque chose que je peux constater vraiment. Enfin, ce que je constate, c'est que je travaille avec beaucoup de chômeurs et que c'est... Enfin, voilà, il y a un nombre de chômeurs assez important en France et on ne peut plus le nier maintenant. Mais la seule chose que je vois, moi, par rapport à ça, c'est qu'on a tendance, avec des nouvelles formes d'organisation liées au développement numérique, de voir réapparaître des anciens mécanismes, les salariés d'Uber qui sont constitués en syndicat et qui sont allés faire valoir leurs droits auprès de la société. Enfin voilà, on
m'a dit que se répète un peu.
C'est les gens sont en train de se chercher et tout ça, mais je sais pas si.
Oui, c'est sûr qu'ils se constituent à peu près doucement. D'ailleurs, je pense que l'URSSAF a failli requalifier le travail des salariés, des entrepreneurs d'Uber en salariés. Aux États-Unis, c'est aussi beaucoup le cas. Mais ça en dit long justement sur la façon dont on doit accompagner ce droit du travail, parce que certainement il faut l'accompagner. On va pas rester dans des modèles de salariés à 20 ans toute notre vie.
Le faire évoluer.
Après, il y a différentes façons de le faire évoluer. Vous parliez de gauche ou de droite. Il y a clairement des voies. Ce qui est important de savoir, c'est que le numérique en lui-même n'est pas une voie. Il y a des choix derrière. On fait ce qu'on veut. On n'est pas bridé par casser, récupérer, changer, etc. C'est à nous de prendre les décisions. C'est pas au numérique de décider pour nous. Il n'y a pas de transformation numérique, il n'y a que des transformations sociales et humaines.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Bonjour Camille, elle aussi a un cœur et je n'en ai pas le monopole.
Bonjour Christophe.
Alors, vous nous avez rejoint pour nous parler du vote électronique.
Exactement, de cette pratique alléchante dont on entend régulièrement parler à chaque élection. Des pays comme l'Estonie, qui est précurseur en matière de numérique, propose à ses citoyens de voter par Internet depuis 2005 déjà.
Nous aurions donc déjà 11 ans de retard.
Oh, c'est ce qu'en déduisent certains politiciens qui militent clairement pour que la France s'y mette. Mais ce n'est pas si simple. D'abord, il faut comparer le vote traditionnel à ce nouveau vote qui a l'air si merveilleux. Quand on vote, on se rend dans un bureau près de chez soi, on va dans un isoloir, on glisse le nom de notre poulain dans l'enveloppe, on la dépose dans l'urne et on se fait enregistrer, pour éviter que des malins ne passent plusieurs fois. Enfin, à l'envi, on peut vérifier que le bureau respecte ses conditions de vote toute la journée si on veut et assister au dépouillement. C'est un système qui marche, plutôt simple à mettre en place. Le vote électronique, lui, se passe sur Internet. Muni de son ordinateur, d'un identifiant et d'un mot de passe, le citoyen clique sur le nom de son champion, valide son choix, et voilà, c'est fini.
Mais ça a l'air très simple et très pratique, votre truc, là.
Et pourtant, encore une fois, la mise en place de ce système est une question qui est tout sauf simple. Je nous ai fait une liste des arguments en faveur et contre ce mode de vote pour mieux comprendre. D'abord, ceux qui sont pour disent comme toi. Ce serait plus simple, plus pratique, bref, les citoyens n'auraient pas à faire la queue pour voter, ils n'auraient pas à se déplacer, juste à dépenser quelques minutes tranquilles dans le canap pour pouvoir passer un dimanche en famille sans plus avoir à y penser. Ça donne aussi une autre possibilité à ceux qui ne peuvent pas se rendre à leur bureau de vote pour X raisons ce dimanche-là. C'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de faire un vote par procuration quand on ne fait pas toujours confiance à ses proches pour choisir notre choix.
Oui, dit comme ça, c'est sûr, tout le monde devrait avoir envie de s'y mettre. votre vote électronique, non ?
En fait, le principal problème soulevé par les détracteurs, c'est le souci de transparence du vote. Une chercheuse qui travaille sur un logiciel de vote explique sur le site du CNRS que d'un côté, il faut conserver le secret du vote de chaque citoyen et de l'autre, permettre une totale transparence du fonctionnement de vote et sa sécurité, ce qui peut paraître contradictoire. Comment protéger le secret des citoyens tout en étant transparent dans le codage des données, de manière très pratique ? Comment le citoyen lambda peut-il vérifier et comprendre le fonctionnement du vote sans réelle connaissance informatique? Comment empêcher les fraudes avec un système en libre accès et transparent?
Et comment même garantir que le citoyen est libre de son choix quand il vote, s'il est chez lui?
Et oui, parce que comment est-ce qu'on peut être sûr, nous tous, qu'il n'agit pas sous la contrainte de quelqu'un avec lui? Qui est dans la pièce et qui regarde par-dessus son épaule? On ne sait pas. En plus, on touche à une pratique qui est quand même traditionnelle et qui commence à dater maintenant. Bien sûr, ce ne serait pas une pratique obligatoire, ce vote électronique. Mais tout le monde n'aurait pas les mêmes possibilités de vote, ce qui n'est pas très égalitaire en soi. Il faudrait avoir un ordinateur, une certaine connaissance d'Internet. Et ça suppose que le logiciel de vote soit compatible avec le plus grand nombre d'ordinateurs possible.
Alors pourquoi ça marche en Estonie alors que ça n'a pas l'air si fiable que ça, si je vous écoute bien ?
Déjà, parce que les Estoniens, ils ont une grosse pratique du numérique, c'est le pays du numérique en Europe, et qu'ils sont 1 300 000 quand nous sommes 51 fois plus nombreux. Oui, j'ai calculé.
Bravo.
Merci. Et qu'ils ont eu depuis 2005 pour améliorer leur système pour que la population s'habitue à ce vote. En France, on a essayé aussi, comme le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Allemagne, qui ont tous mis fin à l'expérience par manque de fiabilité du logiciel. On a d'abord essayé les machines à voter électroniques, qui ont tout du gadget inutile pour ma part, et qui d'ailleurs ont été l'objet de plusieurs problèmes techniques à Reims notamment. On a aussi fait voter les Français à l'étranger en 2012 et 2014, et l'UMP s'en est servi pour faire élire par leurs sympathisants leur nouveau président. Mais à chaque fois, c'était pour de petites parties de la population.
En tout cas, pour ou contre, on aura peut-être bientôt un logiciel qui nous conviendra comme ça a l'air de se passer en Estonie.
Et oui, après tout, c'est peut-être ça l'évolution logique de notre mode de vote. En tout cas, pour les défenseurs du vote électronique, l'idée derrière tout ça, c'est séduire les jeunes et ramener du monde aux urnes, si c'est possible, dans son camp politique, évidemment.
Et ça finit par marcher à la fin ?
Même pas. Lorsque des pays ont adopté ce mode de vote, il y avait effectivement beaucoup de jeunes parmi les votants sur Internet, on peut l'imaginer, mais ça n'a pas fait augmenter le taux de participation. Il reste le même à chaque fois. C'est assez décevant quand on y pense. Et puis je me suis dit qu'en fait, c'est assez naturel que la participation ne change pas. Si les gens ne vont pas voter, c'est qu'ils le décident, ce n'est pas parce qu'ils ont la flemme. Cette année nous a montré que beaucoup de Français sont capables de se mobiliser lorsqu'ils considèrent cela important. On pense tous aux manifestations du 12 janvier dernier. Bref, le vote numérique en France, ce n'est pas pour tout de suite. Et finalement, c'est assez amusant de se dire que dans notre monde où tout se numérise, on vote et on votera peut-être toujours avec un simple bout de papier.
Merci Camille. On a même vu récemment un journaliste faire voter un chat aux élections écologistes. Sur cette question de l'authentification des personnes, vous, sur Change, comment vous gérez ça ? Parce que vous faites des pétitions en ligne, je peux signer, mais je peux aussi signer pour ma voisine. Comment vous gérez cette question de l'authentification de la personne qui vote ? Alors,
on a des équipes dédiées, à la fois techniques et humaines, qui vérifient les signatures. Donc, sous un délai de 24 à 48 heures, s'il y a des signatures frauduleuses, elles sont supprimées de la plateforme.
Béatrix, qui nous a rejoint maintenant, je vous laisse la parole.
Tout à fait, bonsoir. Oui, donc du coup, vos signataires rentrent leurs coordonnées, mais moi, je me posais une petite question. Qu'est-ce que vous en faites ? Parce que Change.org, c'est également une entreprise, me semble-t-il. À qui vous les vendez et sous quelles conditions ?
C'est une entreprise sociale. Donc, il faut savoir qu'on ne vend pas du tout nos données on ne voit pas du tout les données des utilisateurs. On va uniquement utiliser les données des utilisateurs pour leur faire découvrir des nouvelles campagnes, mais elles ne vont pas du tout être utilisées à des fins commerciales.
C'est vrai, parce que moi j'avais lu un petit article qui me disait justement le contraire, qui me disait que les personnes à l'origine de la pétition pouvaient récupérer après les coordonnées des signataires, justement auprès de vous, après rémunération.
Alors, les personnes à l'origine des pétitions peuvent récupérer les noms des signataires une fois qu'ils veulent la remettre auprès de leurs décideurs. Mais ils ne récupèrent pas du tout les adresses e-mail des personnes qui ont signé la pétition.
D'accord, et donc il n'y a aucune question d'argent là-dedans.
On avait un modèle économique qui reposait sur des campagnes sponsorisées. Donc on permettait à des ONG d'être en relation avec nos utilisateurs sur la plateforme. Et sous le souhait de nos utilisateurs pouvaient donner leur adresse email aux organisations pour qu'ils puissent être informés des nouvelles campagnes que lancent les organisations. Mais on repose plus du tout sur ce modèle maintenant. Là, on va plus aller sur un modèle qui permet justement à nos utilisateurs d'aller un peu plus loin dans l'engagement citoyen et de soutenir la plateforme pour permettre de plus en plus à des utilisateurs d'avoir accès à des outils pour mener campagne. L'idée, c'est vraiment de nous soutenir pour permettre au plus grand nombre d'agir sur les causes qui les intéressent.
Et justement, cette action, elle va prendre quelle forme ? Est-ce que vous avez vraiment une portée juridique, je dirais, une fois que vous avez vérifié justement l'authenticité de toutes ces signatures ? Est-ce que ça va être une portée qui va être symbolique ou est-ce que vous espérez avoir un réel poids finalement juridiquement ou sur la législation ? Après coup.
Alors là, les signatures, elles sont déjà vérifiées. Donc on a des équipes qui sont en charge de ça. Donc sur l'aspect juridique, c'est déjà établi en fait. Une fois qu'une personne signe plusieurs fois une pétition, on peut l'identifier avec son adresse IP et d'autres moyens techniques. Donc la signature est supprimée et le compte.
Une des critiques qu'on vous avait fait justement au moment de la loi travail, parce que c'était très impressionnant. Oui. En quelques jours, il y avait eu des millions de signatures justement contre la loi travail. Et vos opposants avaient dit attention, on ne sait pas si derrière toutes ces signatures, ce ne sont pas finalement des robots et finalement plusieurs personnes. Mais donc ça, c'est réglé.
C'est ce qu'on a répondu justement aux détraqueurs sur le sujet. Et ce qui a fait quand même le succès de la loi travail, c'est tout le réseau qui avait derrière cette pétition. Caroline Dehas a été vraiment entourée et des syndicalistes et des citoyens qui s'étaient engagés sur la plateforme, mais aussi d'autres personnes qui n'avaient pas forcément écho des pétitions en ligne, mais qui ont été concernées directement par le sujet, parce que le travail, c'est quand même quelque chose qui concerne tout le monde. Donc c'est ce qui a fait que la campagne a gagné un succès aussi énorme. C'est vraiment toutes les mises à jour qu'a effectuées Caroline Dehas et toutes les actions qu'elle a menées autour de la campagne.
Pierre-Luc Fayolle, vous qui êtes proche d'un public de gens exclus, l'idée d'un vote électronique, c'est quelque chose qui vous fait un peu peur en vous disant « mais ils ont même pas d'ordinateur, comment ils vont aller voter ces gens-là »
Bah, ça fait un peu peur dans le sens où c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faudra un apprentissage quoi qu'il arrive. On ne pourra pas passer autrement qu'un par un apprentissage. Shorty feeling low, out of my zone, I'm on my phone, emotions can't control. I take a walk, I take a stroll, I can't be going home. I cause a problem, fuck up with y'all, I'm just a broken soul. I'm fucked up, I know that I need help. I'm so sad, my best friend, the slap hat, my lover, my left hand. I done slammed, I done banged myself up, I'm deranged. I know I'm really strange, I know I'm not the same as I was to you then, like I am to you now. Understand, this ain't how I want shit.
Trust, I'm jaded, you're guarded, I'm faded, I'm standing here wasted on Snapchat, I'm naked. I done slammed, I done banged myself up, I'm deranged. I know I'm really strange, I know I'm not the same as I was to you then, like I am to you now. Understand, this ain't how I want shit to go down. Are you really gonna screw me, pull the trigger, go and do me, feeling gloomy, I'm so loony, all this bullshit wears a beauty.
I'm alone, 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 I'm alone,
Les plus branchés de nos auditeurs auront reconnu Mickey Blanco qui interprétait l'honneur.
Win, the yes needs a no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Again, the no.
Les moins branchés auront reconnu Jean-Pierre Raffarin qui parle anglais. C'est à vous, Béatrix.
Oui, alors je pensais ce qui était intéressant dans cette seconde partie, c'était de voir un petit peu de quelle façon le discours politique allait s'individualiser, particulièrement quand on va aller chercher, en guillemets, les électeurs, essayer de les cibler pour trouver les derniers indécis et leur dire « allez voter pour moi ». Qu'est-ce que vous en pensez finalement? À votre avis, ça va avoir quoi comme effet sur la démocratie? On pense par rapport, par exemple, à la start-up de Macron, le travail de Hollande en 2012, même Obama en 2008.
Irénée Regnault.
Alors en fait, il faut savoir déjà qu'il y a différentes manières d'adresser le consommateur en fait. Non, c'est pas le consommateur, c'est le citoyen, mais avec des plateformes aujourd'hui qui sont donc utilisées par Obama, comme vous disiez, qui permettent de récolter un certain nombre d'informations sur des gens à travers ce qu'on appelle des data brokers éventuellement, donc des gens qui ont plein de données, et ensuite d'aller les adresser individuellement selon leur goût, selon... alors on est par exemple en Amérique, on a beaucoup plus le droit de cibler les gens selon des origines ethniques ou des choses comme ça qu'on ne peut pas faire en France grâce à la CNIL. Alors qu'est-ce que ça produit? Vous prenez par exemple aujourd'hui la campagne d'Hillary Clinton. Tous les militants potentiels ont une application à travers laquelle ils peuvent recevoir des pushs, c'est-à-dire des notifications qui leur dit de faire ceci ou cela et qui leur fait gagner des points éventuellement pour aller militer. Donc alors on pourrait se dire c'est super.
C'est le Candy Crush de la politique ?
Bah, le problème c'est que c'est un peu ça en fait. Et on se retrouve avec des gens qui tombent dans ce qu'on appelle la gamification ou la ludification et qui en fait vont jouer à faire de la politique. Mais la politique c'est pas un jeu, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et...
Est-ce que ça peut pas être aussi un moyen de repolitiser les gens alors qu'on sent parfois que les gens n'ont plus d'espoir et se désintéressent un petit peu de la politique ?
Mais ça,
est-ce
typiquement...
que c'est peut-être un moyen de toucher plus de personnes ?
Alors on peut toucher plein de personnes certes, après si on touche chacun individuellement avec un message individuel, on fait plus de politique, on fait du clientélisme, on fait du populisme. La politique c'est pas des algorithmes, c'est des gens qui ont des convictions et qui essayent de les défendre. Donc c'est pas forcément la bonne solution. Repolitiser les gens, encore une fois, on a un cas de... On renverse le problème, on en fait une question technique, on apporte une solution technologique et on dit on l'a résolu. Mais la question n'est pas technique. La question, elle est beaucoup plus complexe que ça. On la connaît tous, c'est une question d'éducation, c'est une question d'accès à une presse libre, indépendante. C'est beaucoup plus difficile de se poser ces vraies questions que de coder une application, c'est sûr.
Et justement, par rapport à la presse, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de personnes vont aller s'informer sur les réseaux sociaux, même en tapant sa recherche sur Google. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ces géants ont des algorithmes sélectifs qui vont faire en sorte que les articles sur lesquels vous allez tomber vont apparaître en fonction de vos sélections précédentes et donc vont vous enfermer en quelque sorte dans une sorte de bulle intellectuelle où vous ne trouverez jamais un article qui va contredire celui que vous venez de lire. Idem, qu'est-ce que ça peut produire sur notre société? Est-ce que ça peut finalement stériliser le débat?
Du coup, c'est une bulle qui est tout sauf intellectuelle, puisque l'essence même du débat démocratique, c'est d'entendre des opinions qui ne sont pas les siennes. Alors, ce que fait Google, ce que fait Facebook, alors Facebook fait des opérations sur des millions de gens en mettant plus de messages positifs ou plus de messages négatifs et en tirant en contrepartie plus de posts positif ou négatif. Et on se rend compte qu'on est presque dans l'ingénierie sociale, si vous voulez. On peut faire fluctuer, par exemple, assez facilement un vote indécis. Ça a été beaucoup fait dans la campagne d'Obama, en se focalisant sur les swing states, c'est-à-dire les états où les gens ne sont pas sûrs. Donc c'est assez dangereux quand même, il faut le savoir.
Et vous, par exemple, Pierre-Luc Fayol, est-ce que vous essayez d'apprendre aux gens à avoir un esprit critique vis-à-vis de leur consommation justement d'informations
sur
Internet?
Alors, on essaye de leur permettre d'avoir un esprit critique, en effet, et de parler un peu de la culture du libre, de revenir un peu à ce qu'est l'essence d'Internet. Ce que tu disais, Irénée, c'était que ça détruisait un peu la politique, enfin, ça pouvait poser problème sur la politique, mais ça pose problème sur Internet, en fait, ce cloisonnement dans des algorithmes. C'est Internet, à la base, c'était créé par des hippies aux États-Unis qui voulaient permettre la diffusion des savoirs. Et c'était le lien hypertexte, il renvoie vers un autre lien hypertexte, il renvoie vers un autre lien hypertexte. Et voilà, on quitte ces silos. Et notamment la culture du livre, le monde du livre, c'est quelque chose d'essentiel pour diffuser
ça. Encore une fois, tout est question de symétrie. Hein, quand on voit des choses comme Change.org, justement, ou l'essor des réseaux sociaux dans les révolutions arabes, qui ne sont pas la cause seule, mais qui sont une des aides. Je ne dis pas qu'il faut que ça détruit la politique, ce n'est pas vrai. Ça augmente aussi les citoyens dans une certaine mesure. C'est juste une question de symétrie, de rapport de force.
Aminata, vous vouliez réagir, je crois.
Oui, je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, les citoyens n'attendent plus vraiment des politiques pour peser sur les décisions qui les concernent. Donc maintenant, c'est vraiment plus top-down. C'est plus les citoyens qui vont aller chercher les politiques pour pouvoir porter leur message et faire aboutir leur mobilisation. Et à ce sujet, pour les présidentielles, Change lance un nouveau projet qui s'appelle Changer 2017, qui va vraiment permettre aux citoyens d'être mis au cœur de la vie démocratique et de peser sur les décisions. Donc ça va être en trois phases. On aura une première phase qui sera une consultation citoyenne. Donc on va essayer de récolter toutes les attentes des citoyens pour leur futur président. Donc les résultats seront présentés au Liberté Living Lab le 6 décembre. Il y aura une deuxième phase qui sera l'interpellation. Donc on va interpeller les candidats à la présidentielle et les inviter à converser sur la plateforme. Enfin, on aura une phase de lobbying. Donc ça va intéresser les auditeurs de Radio Campus Paris parce qu'on aura trois ambassadeurs de Change.org âgés de moins de 30 ans qui vont porter auprès des candidats les campagnes les plus populaires sur la plateforme. Et essayer d'avoir des engagements concrets auprès des candidats à la présidentielle.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Oui, on reprend.
On a été interrompu par Valérie Giscard d'Estaing, c'est pas mal.
Ça va, on le pardonne. Oui, donc pour conclure là-dessus, peut-être un point un petit peu technique, mais en tout cas qui nous dessine un monde assez obscur. Est-ce que vous pensez, donc je m'adresse aux trois invités, qu'un jour il pourrait exister des algorithmes qui guideraient l'action politique et qui finalement imposeraient un système de gouvernance rationalisé mathématiquement? C'est-à-dire qu'on vous dirait, mais écoutez, pourquoi vous remettez ma décision en cause? Regardez, il y a eu un calcul, on a pris en compte tout un tas de données. C'est la bonne décision, c'est ça qu'il faut faire. Et
Alors, on tend un petit peu vers ça. Après, il ne faut pas non plus croire au scénario totalement contre-utopique. Ce serait en partie possible, c'est évidemment pas souhaitable.
Parce que les chiffres, ça reste quand même l'un des meilleurs arguments pour appuyer sa politique et la légitimer.
Oui, et puis d'ailleurs, on voit que ça marche très très bien, hein, depuis quand même pas mal d'années, ironiquement, mais bon, c'est pas du tout une solution, évidemment. C'est pas comme ça que se fait l'histoire, du tout, c'est pas qu'avec des chiffres. Et en plus, au moment où les gens ont une certaine désaffection vis-à-vis du politique, c'est sûrement pas le moment de mettre des machines à la place, parce que ça donne raison à des partis d'extrême droite qui disent que les politiciens font des politiques de gestionnaires. Et en plus de ça, les algorithmes, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il faut qu'ils soient transparents, il faut qu'ils soient auditables, il faut qu'on puisse les modifier, il faut qu'on puisse y participer, parce qu'ils ne sont jamais neutres. C'est des gens qui les codent derrière. Et ces gens-là ont des biais cognitifs, des biais politiques, etc.
D'accord, parce qu'on voit par exemple qu'il y a des... Oui, pardon.
Non, je voulais aussi dire que les algorithmes, ils sont peut-être exos à un instant T, mais les opinions évoluent. Suite au débat politique, les idées évoluent. Donc on ne peut pas forcément se fixer sur les algorithmes pour imposer des décisions qui vont peser sur le débat.
Il y a le facteur humain qui rentre en jeu.
Oui, le facteur humain, le contexte sociopolitique, oui. Plein de facteurs qui rentrent en compte.
D'accord. Et si on
voulait... rien à rajouter. Enfin, je suis plutôt d'accord avec.
D'accord. Et si on veut extrapoler encore un petit peu, par exemple, quand on regarde les analyses textuelles qui se font, par exemple, sur Twitter, quand on peut anticiper une crise, par exemple, qu'on voit qu'il y a énormément de réactions sur un sujet, est-ce que les politiques pourraient s'emparer de cela et finalement je dirais par exemple rajouter des effectifs en prévoyant la menace et dans ces cas-là, est-ce qu'on bascule pas un peu dans un scénario façon Minority Report?
En fait, c'est un peu le cas, hein. Aujourd'hui, vous avez Ted Cruz aux États-Unis qui a, je crois, des équipes qui ont regardé ce qui se passait sur Twitter avant d'aller dans chaque État. Alors, il y a un Twitter où il y a un État où ça parlait d'Ebola. Il est arrivé, il a parlé d'Ebola, en fait. Il a un peu pris la température de ce qui se passait sur place. De là on va vers la prédiction Minority Report, donc c'est-à-dire deviner les intentions des gens avant qu'elles aient lieu c'est ce qu'en effet beaucoup de gens souhaiteraient. On touche à ça, on n'y arrivera jamais.
Pourtant, ça marche plutôt bien dans le marketing, pour la publicité ciblée, les envies prédites, etc.
Ah bah,
c'est,
oui.
Pourquoi ce ne serait pas applicable à la politique si ça marche finalement pour vous vendre du shampoing?
De toute façon, la politique, ce n'est pas que du marketing. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la politique, c'est autre chose, c'est de la formation, c'est de l'esprit critique, c'est... se former sur ses idées, enfin voilà, avoir un regard complexe sur le monde.
Ça prend cette direction quand même. C'est vrai que les,
enfin le, mais ça, enfin c'est clair, mais
inspire beaucoup la politique indéniablement.
Ce n'est pas souhaitable, mais est-ce que c'est d'actualité?
C'est totalement d'actualité. Ça va l'être encore plus. De Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, on a des gens qui se sont servis de données, donc des données des utilisateurs pour faire des campagnes. Alain Juppé aussi, c'est monnaie courante aujourd'hui.
Minata ?
Oui, je pense que les politiques utilisent aujourd'hui les outils numériques et les réseaux sociaux pour un peu crowdsourcer leurs propositions. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus du tout les politiques qui vont être proactifs. Ils vont vraiment essayer d'utiliser ce qui se dit déjà sur Internet pour proposer en fait, des propositions aux citoyens.
Comme je veux quand même finir sur une note positive, est-ce que aussi Internet, ce n'est pas finalement la chance d'avoir des vrais programmes participatifs et de redonner le pouvoir aux citoyens? Vous faites de l'empowerment, alors est-ce que ce n'est pas là où on va tous reprendre le pouvoir?
Bah, c'est clair, c'est ça aussi l'objectif. Il y a d'autres initiatives qui sont, comme tu disais, bottom-up, qui partent des citoyens, et il faut les valoriser, il ne faut pas les laisser tomber, il faut leur donner des moyens pour que ce soit réalisé.
Irène, il y a le mot de la fin, je pense.
Il y a aussi le monde du logiciel libre. Il y a des communautés qui existent. Il y a des projets comme Wikipédia qui sont absolument gratuits, qui sont encore dans l'esprit du web. Le web, c'est encore quelque chose qui est vraiment magnifique et qu'il faut défendre. Mais on ne le défend pas en ne faisant rien, il faut le savoir.
Eh ben, merci beaucoup à vous trois. Je crois qu'on va maintenant retrouver l'équipe de la souterraine après 20h.
Non.
Je crois qu'on ne va pas les retrouver du tout. Donc je vous remercie tous les trois.
Je ne sais pas, on verra.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci,
merci
beaucoup.
À vous.
Bonne soirée.
Vous venez d'écouter le premier numéro de Place Publique, le magazine participatif et mensuel 100% politique de Radio Campus Paris. Merci à nos trois invités, Aminata, je l'ai bien dit, Dembélé, Pierre-Luc Fayolle et Irénée Regnault. C'est l'instant César, merci à Béatrix et Alban pour l'avoir préparé, merci à Guillaume pour son reportage, merci à Camille pour sa chronique, merci à Christophe pour l'exceptionnel habillage sonore, merci à Étienne pour sa réalisation, et enfin merci pour sa confiance, sa bienveillance et sa persévérance à Elsa, sans laquelle cette émission n'aurait pas existé. Rendez-vous le mois prochain, le 18 novembre exactement, pour une émission sur l'économie qui, elle, sera animée par Guillaume.